Je suis en ligne avec un auditeur qui s'appelle David. Bonsoir mon cher David.
Bonsoir Yann.
Comment ça va?
Attention, oui. Au cinquième étage de l'hôtel, je crois, où sont reçus les touristes qui vont à Pyongyang.
Alors, je vois de quel cinquième étage vous parlez.
Il y a quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience.
C'est-à-dire
il a eu un procès public et tout. Hein. Les procès à la...
Non, enfin, il n'y a pas de cinquième étage. Il y a effectivement un Américain, c'est au jeune Américain vous faites allusion?
Oui, je crois, oui.
Oui, oui. Ouais. Il y a une époque de grande tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Un jeune Américain qui, soyons honnêtes, n'avait rien fait de mal, puisqu'il avait soi-disant dérobé une affiche sans demander l'autorisation dans le hall de l'hôtel où il était, été arrêté, a été emprisonné, et les prisons nord-coréennes, quand vous y êtes enfermé, il est bien clair que vous n'êtes pas, réellement programmé pour en ressortir un jour, et le pauvre est mort de ses maltraitances. Et c'était, à mon avis, une manière de dire aux États-Unis voilà ce qu'on fait avec votre idéologie. Mais ce jeune, il faut effectivement honorer sa mémoire, parce qu'il avait voulu aller voyager, découvrir un pays par curiosité. Il n'avait rien fait de répréhensible, mais effectivement, il avait
servi... non intentionnel, et puis... Bon,
il avait servi de monnaie d'échange, et puis en fait, ils n'ont rien échangé du tout, et ils ont renvoyé chez lui un cadavre.
Ouais.
Non, c'est terrible. Et c'est pour ça que je suis toujours ulcéré quand des gens prétendent que voyager dans telle ou telle dictature, c'est entériner la politique de cette dictature.
Non, pas du tout, parce que moi j'ai vu un reportage récemment sur YouTube qui était pas mal fait, de journalistes qui avaient abandonné leurs habits de journaliste, clairement, hein, qui étaient allés en tant que touristes. Et ça montrait un petit peu aussi les petits changements qu'il y a par petites touches,
C'est vrai.
Avec les nouvelles technologies notamment, hein, qui sont, même si c'est une société du contrôle.
Oui, vous avez raison, ça change.
Tu peux pas tout contrôler éternellement, quoi.
Disons que la première fois que j'y suis allé, il fallait laisser son portable à l'aéroport dans un petit casier. Et maintenant, vous avez le droit de prendre le portable, mais il n'y a pas de réseau. Vous avez le droit d'avoir l'iPhone avec vous, mais sans réseau. Vous n'avez pas accès à Internet et vous pouvez passer des coups de fil un ou deux par jour sur un fixe, sachant que vous êtes vraisemblablement sur écoute, ça va de soi.
Oui.
Mais c'est vrai qu'à Pyongyang, maintenant, les gens ont des portables. Les gens ont des portables.
Ouais, ils pouvaient envoyer des mails, simplement.
Non, ils ne peuvent pas envoyer de mails à l'extérieur, sauf les gens qui sont habilités.
Oui, c'est ça. C'est les gens qui sont habilités à ça. Oui. Voilà. Qui envoie le mail.
J'ai reçu un mail moi, de la Corée du Nord, je vais vous le lire. J'ai reçu un mail de leur part, justement à propos de Gérard, il y a quelques jours, qui dit ceci. Attendez, je vais le retrouver. Si je le retrouve, parce que vous savez que quand on cherche quelque chose, par définition...
C'est là où on le retrouve le moins.
On le retrouve, bien sûr. Il suffit de chercher pour ne pas trouver. Bon, je le retrouverai, c'est pas très important. Mais bon, quel bon vent vous amène très
Alors,
cher,
je vous avais
David.
Eu déjà au téléphone fin septembre 2022.
Oui.
Et j'étais pas très très à l'aise parce que c'est aussi le fait
J'ai retrouvé.
De passer à l'antenne.
À l'occasion du nouvel an, cher Yann Moix, à l'occasion du nouvel an 2023, plein d'espoir, je vous envoie mes salutations ici à Pyongyang. Veuillez transmettre mes salutations à vos collègues, y compris M. Gérard, qui était avec vous à Pyongyang. J'espère que la coopération d'échange entre nous s'effectue dans cette année une fois que la crise mondiale de santé se termine amicalement. Kim Moon-chol, secrétaire général. Et donc voilà pourquoi nous pourrons y retourner. Pardon, c'était une parenthèse. Donc on s'était eu en septembre.
Voilà, on s'était eu en septembre. Et alors j'ai des troubles bipolaires depuis mes 22 ans. Donc ça a commencé juste après les études. Donc j'ai fait des bonnes études et après... j'ai eu un petit boulot dans l'administration. Enfin,
ah mais attendez David, on vous avait eu 10 minutes en fin d'émission, c'est ça?
Voilà, oui.
Ah oui, d'accord. Ok, alors là, on a plus de temps aujourd'hui. Oui, ça y est, ça me revient.
J'ai une bonne mémoire. Et donc, ça n'allait pas trop à ce moment-là. Bon, voilà. C'est-à-dire que moi, mes phases de retrait sont une hypersomnie et puis un ralentissement, principalement. Et en phase d'excitation, au contraire, un manque de sommeil flagrant et je sors beaucoup, enfin bon, c'est un peu brouillon, mais il n'y a pas de d'achat compulsif dans ces phases-là, il n'y a pas d'idées noires ou de phases mélancoliques dans les phases basses. Donc, je m'estime quand même chanceux, déjà.
Pardon,
Je ne
je vous
souffre
entends pas bien. Vous
pas.
estimez quoi?
Chanceux.
Pas chanceux,
C'est-à-dire
chanceux.
que
Je n'ai pas bien
je ne
entendu.
souffre pas trop de ma pathologie.
D'accord.
À part le plus embêtant, c'est par rapport au boulot.
Quel est ce travail?
Alors, j'étais aux finances publiques, aux impôts. Ouais. Et là, donc, alors il y a un célèbre psychiatre, en fait, spécialisé dans la maladie bipolaire, qui fait des conférences. Et dans l'une d'entre elles, il dit que les bipolaires se destinent rarement à être comptables. Donc moi, j'ai fait un job dans la comptabilité. Mais je pense qu'un métier avec des affects plus marqués me siégerait mieux. Donc, pendant le confinement, je me suis intéressé au métier d'écrivain public. J'ai fait une formation au CNED et je suis écrivain public, mais à titre bénévole, parce qu'il y a les deux versions. Il y a le version à titre onéreux, et à ce moment-là,
Je rappelle pour les auditeurs, les CNED, c'est un enseignement
oui, à
à
distance.
distance. Hein.
C'est le Centre national d'enseignement à
Oui, c'est
distance.
ça. Mais tout le monde n'est pas censé le savoir, donc c'est pour ça.
Oui, non, mais bien sûr, j'avais omis. Ouais, c'est moi. Et le problème, c'est qu'il est très difficile d'en vivre de ce métier. C'est pas très viable comme projet. Donc, je fais du bénévolat pendant le temps. Là, je suis en arrêt de maladie, mais j'arrive au bout, je vais être en invalidité sans doute. Et donc commence le Cap emploi. Donc c'est le pôle emploi désigné pour les personnes souffrant d'un handicap. Moi, il faudrait un aménagement horaire, mais le handicap psychique est quand même assez mal perçu dans le milieu de l'entreprise, même si il y a une obligation de recruter 6% de personnes ayant un handicap. Donc je sais pas bien, j'ai demandé un rendez-vous avec une conseillère en évolution professionnelle pour parce que j'avais plusieurs idées, j'avais aussi faire de renseignement, donner des cours dans le privé quoi. Parce que j'ai fait un DEA d'économie, donc des études théoriques. Enfin, j'avais plusieurs idées et le plus, moi, ça fait quand même 4 ans et demi là que je travaille pas. Et donc le bénévolat, ça fait des relations sociales, certes. Et puis j'ai mes amis et puis mes parents, hein, mais être éloigné du marché de l'emploi, c'est dur, je trouve.
Très dur. Très
C'est
dur.
dur, sachant que je pourrais
Et
pas
c'est très dur, et je vais vous dire
vivre.
quelque chose qu'on oublie toujours. Alors moi, je respecte énormément les gens qui souhaitent prendre leur retraite relativement tôt parce qu'ils ont eu des vies extrêmement pénibles. Les choses doivent être claires.
Ouais.
Il y a des métiers qui sont vraiment pas faciles. Mais, et je dis ça vraiment sans forfanterie et sans ironie, hein, mais il est essentiel de comprendre que le jour où le travail cesse, il y a tout ce qui va avec qui cesse, c'est-à-dire les rapports sociaux, les
Oui.
rapprochements entre collègues, l'ambiance du travail, le fait de se déplacer le matin pour aller quelque part. Et on oublie parfois que cet univers-là, une fois qu'on l'a perdu, c'est irréversible et que la solitude, se retrouver seul avec soi-même, chez soi, même si on se fait croire qu'on saura meubler le temps, et ben c'est pas si évident qu'on le croit. Alors, je ne dis pas ça pour remettre en cause les gens qui ont un travail extrêmement pénible. Je dis simplement que le travail, ce n'est pas que de de la contrainte et que de la pénibilité. Ça peut être dur.
C'est un lien social. Hein,
mais c'est un lien social. Vous faites bien de le rappeler. C'est un lien social extrêmement fort et important.
Donc, quand on se dirige plutôt vers la porte de sortie, enfin après, je pourrais travailler. En fait, c'est des termes administratifs, invalidité avec cessation permanente de capacité de travail. Je pourrais travailler même à plein temps. Sauf que, je pourrais le faire objectivement, mais moi, le rythme qui m'a toujours le plus convenu, c'est un mi-temps.
Ouais, c'est bien ça, les mi-temps.
Voilà, donc il y a ça. Donc moi, j'ai fait pas mal de choses hein, par rapport à ma maladie.
Oui, tu vois ça.
J'ai fait un hôpital de jour qui permet d'appréhender mieux les choses. Il y a des cours de relaxation, des c'est un programme assez complet quoi, qui était vraiment bien. J'ai fait une expertise au GHU Sainte-Anne. Donc, je suis bien bipolaire type 1. Donc, moi, j'ai des phases. Alors, c'est avec les phases de manie, c'est-à-dire avec dissociation de la réalité dans certains moments. Donc, ce qui est pas facile à vivre, ça aussi.
Mais alors, vous pouvez les anticiper ou il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de fréquence?
Alors, si, on passe toujours par une phase hypomaniaque, oui. Donc sans éléments délirants, mais avec une accélération des idées, en étant beaucoup plus volubile, très performant au boulot, en dormant très peu. Et c'est là qu'il faut...
c'est un signe qui devrait alerter, quoi.
Voilà. Et puis prendre des neuroleptiques, quoi, sont retombées, en fait, la pression.
La pression. Vous avez des crises vous avez des comportements parfois irrationnels ou délirants en état de crise ou pas du tout?
Ah, oui,
Vous pouvez faire des choses qui se font.
Je vais vous faire rigoler, je fais un peu de politique. Je suis militant socialiste.
Oui.
Et je me voyais reprendre le parti, quoi. Enfin, ouais. Voilà, clairement.
Mais vous savez, peut-être que Pierre Mauroy était bipolaire, peut-être que Mitterrand était bipolaire.
Churchill était bipolaire.
Oui, donc quand vous savez. Ce que vous dites, bien sûr, c'est pas parce qu'on a une ambition forcenée tout d'un coup qu'on est forcément... Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, la bipolarité, c'est un terme qui est très à la mode. Alors heureusement, dans les termes à la mode, il y a toujours... la mode passe, et on arrive toujours à repérer ceux qui souffrent vraiment de la bipolarité. Mais si vous écoutez les gens, tout le monde est bipolaire aujourd'hui. Tout le monde est au potentiel, tout le monde est Asperger, tout le monde est tout, quoi.
Oui.
Donc vous faites bien de préciser que dans votre cas, vous faites bien de préciser que dans votre cas, vous avez vraiment été diagnostiqué et vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui a des coups de
blues.
Oui, je me permets de le préciser, mon cher David, parce que souvent les gens pensent que bipolaire, c'est un type qui est une femme qui est up and down, qui a des petites crises, machin. Non, il faut vraiment expliquer aux auditrices et aux auditeurs que c'est une maladie et que ceux qui en souffrent véritablement, profondément. Ce n'est pas simplement des gros coups de blues avec des épisodes d'euphorie. Ce n'est pas que ça.
Alors, moi, les phases de retrait, de repli, je dors 16 heures par jour et puis je vais à fumer ma clope à mon bureau et puis je sors un petit peu, je vais faire les courses, je fais lui comme un petit vieux. Enfin,
vous avez une compagne ou un compagnon enfin.
Mais là je me remets à appeler un petit peu avec les sites de rencontres, donc pourquoi pas, je sais pas. Ça aussi ça compte.
Mais ça n'empêche pas du tout d'être bipolaire, n'empêche pas d'avoir une relation amoureuse suivie. Hein.
Non, et une relation amoureuse stabilise aussi.
Pardon?
Une relation amoureuse qui se passe bien. Hein.
Oui, bien
stabilise.
Sûr. Qui se stabilise, bien sûr.
Ouais.
Il suffit de connaître l'autre en fait et de s'adapter. Alors c'est pas simple, mais aucune relation n'est simple.
Non, bah le prérequis, c'est que moi, je garde mon appart déjà. Il est hors de question que, bah voilà, comme ça, j'embête personne. Les moments où je suis pas bien, je suis un peu là. Enfin, ça s'est déjà passé comme ça avec mon ex-compagne. Donc ouais, ça nécessite des petits aménagements, mais bon, c'est pas impossible.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, s'il y avait un changement opéré dans votre vie, d'un claquement de doigts, ce serait quoi là aujourd'hui, par exemple?
Bah, j'ai un peu grossi, alors.
C'est pas les médicaments, ça?
Ouais, si, c'est parce que c'est un nouveau médicament, ça. C'est aussi les petits à côté négatifs de la chose.
Est-ce que vous faites du sport, David?
Ah, j'en ai pas l'énergie. Ouais, de la marche, mais ouais. C'est tout.
Bah, c'est bien la marche, c'est bien.
Ouais, j'essaye.
Non, c'est bien.
Il faut, hein.
C'est du sport, hein, la marche. Hein. C'est même un des meilleurs
ouais,
sports qui soit.
Ouais, la marche rapide.
Mais même la marche pas rapide.
Ouais.
La marche rapide, bien sûr que c'est très bien, mais la marche tout court, c'est déjà très bien, la marche tout court.
Oui, moi je marche assez rapidement, c'est pour ça, donc pas trop de difficultés à aller à un bon rythme. Mais et puis j'ai édité un petit recueil, enfin c'est un livret plutôt, parce qu'il n'y a que 26 poèmes par une maison d'édition. Alors ça s'est pas très bien passé avec l'éditeur, puisque dans le contrat c'était censé être à compte d'éditeur, mais
compte d'auteur, vous voulez dire?
Non, d'éditeur.
Ah bon?
Mais en fait c'était plutôt à compte d'auteur.
Vous êtes fait rouler.
Sauf que j'ai pas payé.
C'est bien.
J'ai pas payé et je me suis fait traiter d'escroc par un escroc, donc.
Je dis aux auditrices et aux auditeurs, faites très attention aux éditions à compte d'auteur. Je vous explique le système en une phrase. Ce sont des gens qui vous font croire qu'ils cherchent des manuscrits, qui vous traitent comme si vous étiez Tolstoï ou Proust, alors qu'en fait, vous êtes simplement pour eux des pigeons. Vous leur donnez de l'argent. Ils vont imprimer, je dis bien imprimer, non pas éditer vos livres, imprimer. Éditer, ça veut dire relire, mettre en forme, faire un suivi, distribuer.
Là, ah non, y a mais pas, là, ils n'ont pas corrigé les fautes.
Non, mais bien sûr, non, j'explique pour les éditeurs. Ouais. Il n'y aura pas d'édition, donc personne ne reliera votre manuscrit. Si vous racontez n'importe quoi, bah, ils laisseront tout in extenso. Si vous faites 14 fautes d'orthographe par phrase, ils laisseront les fautes parce que personne n'éditera. Ensuite, comme ils ne distribueront pas votre ouvrage ne sera dans aucune librairie. Et un beau matin, vous retrouverez devant le pas de votre porte 800 ou 1200 exemplaires de votre livre, et ce sera à vous.
Alors là, c'était plus light quand même, c'était
oui,
40.
Oui, 40, mais bon.
Mais bon, ça fait.
Et donc faites attention à ça, les amis.
Pas autant de meubles que ça, moi.
Faites attention, les amis, parce que ça coûte de l'argent et ce sont des escrocs.
Ouais, là, en fait, ça revient à 400 euros, et soi-disant, ils font miroiter un tirage à 300 exemplaires, mais ça, j'y crois pas.
Et ce sont des escrocs.
J'ai vendu 6 exemplaires, quoi. Donc, bon.
Vous voulez nous en lire un de vos poèmes ou pas?
Vous vouliez. Alors, je ne vous promets pas à la campagne, parce que j'habite en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, une charmante bourgade. Et ça s'intitule Ma ville.
Alors, on va mettre du Francis Lay derrière. Ne quittez pas.
Voilà, je me mets dessus.
C'est parti.
Je me mets dessus, hein, parce
oui,
que
oui, bien sûr, bien sûr.
Je suis sur mon portable directement. Parce qu'évidemment, je n'ai même pas un exemplaire de mon.
Est-ce qu'on peut mettre un Francis Lay plus doux, mon cher
non,
Benoît?
C'est trop simple. Donc, ma ville.
Ah, celui-là.
Cette cité vulgaire où l'on croise le bien à séparer de l'ivraie de la politique
honoraire.
On
va recommencer parce qu'on ne vous entend pas bien. Attendez, on va recommencer.
Que les hommes de main
attendez, David.
J'ai dit.
David.
Oui.
On ne vous entend pas. Vous êtes trop loin ou trop près. Enfin, il y a un problème avec votre téléphone.
Ouais, mais ça ne va pas être possible alors parce que je le lis sur mon téléphone.
Ah bon, on essaye comme ça alors. C'est reparti de zéro.
Parfait. Ma ville, cette cité vulgaire où l'on croise le bien à séparer de l'ivraie de la politique honoraire, une pathétique esquisse que les hommes de main creusent le puissant fond d'un vase ibère. Jadis vivaient là des êtres honorables qui maintenant se laissent séduire par la main, celle qui donne moins qu'elle ne prend orable, les visages avenants cachent souvent un esprit malin. Hissés des eaux stagnantes d'un marais putride, qui eût cru que ce nom si malhabile vienne à gagner ses galons d'un honneur fétide, les faux-semblants poussant à rejeter sa bile. Heureusement que de toute cette frange naît un espoir, porté par la beauté d'âme d'individus saugrenus, que le fou aux accents délirium se laisse choir, sans doute le seul à ne pas finir vendu. Incarnation d'un tout bien trop délirant, faible copie de ceux qui s'affichent sous leur costume, comme des gens de bien nouveau au Roland, provoquant certainement quelque amertume.
C'est le poème d'un homme en colère.
Ouais, j'étais pas très content.
Non, je vois ça.
Je débarquer, là.
J'ai une question à vous poser. Je vois là sur l'affiche qu'on m'a préparée que vous êtes addict à la cigarette. C'est toujours le cas ?
Ah, oh, c'est une horreur.
Mais pourquoi vous n'essayez pas la
j'ai un trou de... La cigarette électronique.
Non. L'acupuncture.
Alors, ouais, il me reste deux trucs à essayer, mais mon addictologue, mon psy, en fait, qui est addictologue, il n'y croit pas du tout, pour moi. C'est l'hypnose et l'acupuncture.
Non, mais pourquoi vous laissez les autres ne pas croire à votre place ?
J'ai une relation très spéciale avec la cigarette. Hein. C'est parce que, en général, effectivement, les gens qui ont un trouble bipolaire sont assez soumis aux addictions.
Mais si vous changez d'addiction ?
Alors, j'ai arrêté le cannabis il y a longtemps, ça c'est quand j'étais jeune.
Et si on peut changer. Moi j'adore les addictions, mais ce n'est pas forcément des addictions mauvaises pour la santé. Il y a plein d'addictions.
Oui, je parle d'addiction toxique, moi.
Ah oui, sinon c'est pas drôle.
Non, et l'alcool, maintenant je bois très raisonnablement.
De toute façon, j'imagine que vous prenez des médicaments.
Oui.
Donc vous ne pouvez pas mélanger ces médicaments avec l'alcool, normalement.
Non, mais je bois très modérément. Là.
D'accord.
Non,
vous avez de la chance, ça doit être génial de boire modérément.
Médecins, ils croient pas trop. Quand je leur dis ça, je leur dis, mais si, je prends deux bières, et puis voilà.
Ouais.
Parce que je suis un fanat de bière, en fait.
Fanat de bière.
Toutes les nouvelles bières, là, oui, qui sortent, là.
Vous êtes fanat de cigarettes et fanat de bière. D'autres...
Oui, mais j'en bois une ou deux par jour.
Non, ça va.
Pas 15.
Avec modération, je vois.
Avec modération, ouais. Mais par contre, la cigarette, c'est... Et puis, ça me trouve le budget, quoi.
Oui, ben ça...
Ouais, donc ouais, il faudrait que je vois... Il y a un hypnothérapeute à côté, là.
Essayez l'hypnose ou l'acupuncture. Vous savez, ça, c'est des sciences, enfin, ce ne sont pas forcément des sciences au sens épistémologique du terme ou au sens positiviste du terme, comme on le dit en Occident. Mais ce sont quand même des sciences, malgré tout, qui ont 5000 ans. Si ça ne marchait pas du tout, ça se saurait.
Ouais. Je vais commencer par l'hypnose, je pense.
Ouais. Vous avez peur des piqûres ?
Non.
Mais essayez quand même.
Aujourd'hui, vous voyez. Donc...
Comment ?
Un médicament.
Ouais. Non, mais essayez. Ouais. Ça coûte rien d'essayer. Si, ça coûte un peu, mais ça vaut tellement le coup quand ça fonctionne.
Non, mais si on fait la balance gain-bénéfice, évidemment. C'est largement valable.
Ouais. Mon cher David.
Il ne reste plus qu'à vouloir arrêter de fumer.
Essayez de ne pas arrêter d'écouter Europe 1, en revanche.
Comment ?
Essayez de ne pas arrêter d'écouter Europe 1, en revanche.
Non, je reste fidèle.
Vous nous écoutez souvent ?
Oui, un peu moins le week-end.
Quoi ?
Je suis plus format... je suis très classique comme garçon, moi. Hein. Je suis plus format... alors, je ne sais
standard.
Pas pourquoi, mais... Libre antenne que antenne libre.
J'ai quand même eu la gentillesse de vous prendre au téléphone ce soir, vous savez. Vous voyez, je ne suis pas rancunier.
Non, mais je vous écoute. Hein. J'ai écouté Antoine de Maximini. Oui, j'ai écouté...
Non, mais nous, on est très tolérants, même les gens qui préfèrent... La libre antenne, on les accepte à l'antenne libre. Hein. Vous savez, c'est la même c'est deux émissions connexes, mais qui en fait sont là pour la même chose.
Oui, mais bien sûr, mais ça, je suis bien conscient. Hein. Alors moi, je me suis jamais mêlé au pugilat facebookien. pour, contre, pour, contre. De toute façon, de manière générale, j'ai arrêté les pugilats sur Facebook. Ça ne sert à rien.
Eh bien,
Bah après, parce que peut-être aussi, enfin non, vous êtes pas beaucoup plus âgé que moi finalement, un peu plus, mais ouais. pas tant que ça, mais les références, moi, c'est plutôt les années 90-2000, vous voyez. C'est pour ça aussi. Mais j'écoute avec plaisir de la bonne musique, là, le petit reggae, là, tout à l'heure, elle a bien fait plaisir.
Très bien.
Le roots, voilà.
Non, mais de toute façon, je pense que ce soit en semaine ou le week-end, c'est une émission qui est quand même faite pour que les auditeurs puissent se sentir chez eux. C'est ça le plus important.
Ouais, et puis il y a la capacité d'interagir en direct, c'est quand même assez génial, quoi.
Je pense que les gens ont besoin de parler.
Oui.
Bah, vous dites ça, oui, mais enfin, vous-même, vous avez envie de parler, c'est tout à fait normal.
Moi aussi.
Ça fait du bien de s'exprimer, je pense, quand on est seul chez soi. En plus, les gens se sentent souvent rejetés, incompris. Il y a aussi le symptôme que je connais bien de la province. On se dit, ah oui, il y en a que pour les Parisiens, etc. Moi, dans mon coin, tout le monde se fiche de moi, mais c'est faux. C'est faux, et je tiens à dire à nos amis que nous adorons vraiment, j'en ai beaucoup parlé ce soir, hein, la province, on n'en parle pas assez, parce que moi je suis né à Nevers, je viens d'Orléans, et c'est vrai que tout ne tourne pas autour de Paris sur Terre.
Perpignan et Lille-et-Vilaine.
Tout ne tourne pas autour de Paris sur Terre, je suis désolé. Et c'est très important de se reconnecter.
Regardez, moi, mes parents, ils se sont rencontrés pour le boulot à Paris, et c'est tout. Sinon, ils viennent, mon père du Sud et ma mère de l'Ouest. Donc,
très bien.
Les vrais Parisiens, il n'y en a pas tant que ça, finalement.
D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien les trucs qui n'ont rien à voir. Vous ne pouvez pas nous dire, vous, quel est le rapport entre Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy, Michel Lanzal et François Truffaut ?
Ah non, là, je suis aux fraises, là.
Et quel est votre Truffaut préféré ?
Ma ?
Votre film de Truffaut préféré ?
Ah, mais je connais mal Truffaut.
On reconnaît vraiment les auditeurs de la semaine.
J'ai toute une éducation à refaire.
Bah ouais, c'est ça, les auditeurs de la semaine. Si vous étiez un auditeur du week-end, vous sauriez quel Truffaut vous préférez. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie. Eh bien, nous allons vous souhaiter une bonne semaine, David, et un très mauvais week-end, puisque pour vous, la semaine s'arrête finalement le jeudi. Mais nous ne sommes pas susceptibles ici. Mais on va quand même vous raccrocher au nez. Allez, salut camarade. Musique.
Salut.